Apple Blue.
Il est question de la Marseillaise, etc., vendredi soir à Manosque.
C'est une comédie de mœurs tellement actuelle qui mêle histoire de migration et science-fiction, et de football aussi, avec un certain match où la Marseillaise a été sifflée un texte écrit suite à des enquêtes de terrain et mis en scène par Jérémy Béchon pour le collectif Manifeste Rien. Jérémy Béchon qui est notre invité. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir pour parler de ce spectacle que vous allez présenter à Manosque. Et je voudrais signaler que c'est la bande-son qu'on vient d'entendre, un extrait de la bande-son de ce spectacle où la musique joue un rôle important. Ghost in République, autrement dit, ce sont les fantômes dans la République.
Oui, les fantômes de la République, à la fois dans l'histoire du gouvernement français et à la fois dans chaque individu. Quels sont nos grands-parents, quels sont nos arrière-grands-parents et comment nous sommes nous-mêmes issus de l'immigration, que ce soit directement ou indirectement ou influencé par cette histoire coloniale ou post-coloniale.
Il y a un double sens avec la Marseillaise, évidemment l'hymne national, mais aussi l'habitante de Marseille.
Oui, puisque la Marseillaise est devenue l'hymne national seulement lors de la Troisième République et en hommage aux Marseillais qui chantaient cet hymne-là encore plus fort, paraît-il, que leurs confrères français.
Donc un beau symbole, effectivement, avec ce passage très étonnant d'un match de football qui a été sifflé et qui est dans les mémoires de bien des personnes. Vous nous rappelez cet événement?
Mais c'est davantage le thème de la pièce, oui. C'est qu'on est parti des matchs de foot qui ont été sifflés, où la Marseillaise a été sifflée en 2001 lors du match France-Algérie, en 2011 lors du match France-Tunisie. Il y a régulièrement comme ça des scandales qui se font par rapport aux symboles nationaux. Et lors de ces matchs de foot, ce qui est intéressant, c'est que certains journalistes et certains hommes politiques ont dit que ces sifflets étaient le symptôme d'une génération d'enfants d'immigrés qui ne s'intégreraient jamais dans la société française. Donc on voit comment, déjà à partir de l'acte de seulement une poignée d'individus, on stigmatise tous les quartiers populaires de la France d'un seul coup, pour un acte médiatique qui veut surfer sur la vague sécuritaire, tout simplement. Et à cet argument-là, nous, on a trouvé un contre-argument historique, parce qu'on a travaillé avec Gérard Noiriel, qui est un historien spécialiste de l'histoire de l'immigration. Et la première fois où la Marseillaise a été sifflée, c'était en 1881, rue de la République, à Marseille.
La télévision n'était pas là, malheureusement.
Non, mais par contre, c'est 1881, c'est l'année de la liberté de la presse, c'est le début des médias de masse, c'est l'année de la création de l'école gratuite, laïque et obligatoire, donc énormément de choses qui sont encore les bases de notre République aujourd'hui.
La fameuse loi du 29 juillet 1881.
Et à l'époque, la France et l'Italie étaient en guerre pour le protectorat de la Tunisie. Et la France vient de gagner cette bataille contre l'Italie, donc pour avoir le territoire de la Tunisie. Et lorsque les troupes françaises reviennent victorieuses de Tunis à Marseille, et qu'elles défilent en tenue d'apparat et qu'elles chantent la Marseillaise, il y a un groupuscule d'Italiens qui va siffler la Marseillaise. Et à cette époque-là, certains journalistes et certains hommes politiques vont dire que c'est le symptôme d'une génération d'enfants d'immigrés qui ne s'intégrera jamais dans la société française. Donc on voit comment un même discours s'abat sur les classes populaires et comment dans les années aujourd'hui ce discours-là sert à stigmatiser les quartiers populaires en mettant en avant ou en usant de l'islamophobie et comment cette même rhétorique-là a été utilisée contre les Italiens qui sont maintenant présentés comme une immigration exemplaire.
Je l'ai dit en commençant cet entretien, c'est un spectacle qui est basé sur des enquêtes de terrain que vous avez réalisées à Marseille avec vos amis. Vous avez dû trier quand même pas mal d'événements et d'éléments pour pouvoir monter un spectacle.
Oui, ben il y a en fait ce qui s'est passé, c'est que juste pour revenir sur cet acte-là où la Marseillaise a été sifflée par un groupuscule d'Italiens, il faut savoir que ça a entraîné un véritable pogrom, donc une chasse aux Italiens dans la ville qui s'appelait les Vêpres marseillaises, et ça a été un véritable carnage. Il y a eu 3 morts, et si l'armée n'était pas intervenue, il y aurait eu bien plus que 3 morts à Marseille, alors que ça s'appelait la ville italienne à l'époque. Tout comme certaines blagues plus ou moins malvenues, on dit de Marseille que c'était la ville arabe il y a quelques années aussi. Donc il faut imaginer que c'est une population qui se retourne contre sa propre population, parce qu'au moment où la Marseillaise est sifflée, le maire, l'adjoint au maire de l'époque, plutôt que de calmer la sauce, il va dire, il va donner raison aux émeutiers en disant c'est un scandale de siffler la Marseillaise, etc. Donc il va lâcher une véritable haine raciale, et le mécontentement social populaire va se transformer en pogrom et va se mettre à frapper sur l'ennemi intérieur, qui est l'immigré à l'époque, qui est l'italien, avec le lien sur la politique internationale à l'époque. Donc on voit comment l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur s'est construit bien avant aujourd'hui les problèmes, encore une fois, de quartiers populaires, d'islam, de guerre contre l'Orient. Tous ces discours-là, on ne dit pas qu'ils sont sans fondement, on dit qu'ils sont beaucoup trop rapides et qu'on n'a aucun recul historique sur des rhétoriques qui existaient déjà à l'époque sur les classes populaires. Et ensuite, nous, sous cette Marseillaise, la Marseillaise a été sifflée en 1881, ça, on peut pas savoir sur tous les Italiens qu'est-ce qu'ils ont pensé. Par contre, la Marseillaise qui a été sifflée dans les stades de foot français, on est allé interroger les habitants des quartiers populaires de Marseille, du centre-ville et des quartiers nord, en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient de ces sifflets-là.
Alors, c'est une pièce, la Marseillaise, etc., qui est une pièce aussi sur l'identité, véritablement, et d'un territoire et d'une nation, et qui date, vous l'avez dit aussi, depuis déjà le 19e siècle, et qui se penche un peu sur la situation de Marseille. C'est aussi quelque chose, quelque part, une histoire de famille. Une famille, peut-être même des familles, et je vous propose d'écouter peut-être le premier extrait de cette pièce. Vous pouvez nous le présenter, Jérémy?
On va avoir un des personnages, Françoise, qui va être confrontée à son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Eva, qui va revenir jeune, parce que tant qu'à faire, autant revenir belle, et également à sa grand-mère. Et elle va découvrir ses propres origines en étant confrontée à ses ancêtres.
Regarde, grand-mémé, c'est la Françoise, notre descendante. À croquer, non? Tu sais, grand-mémé, j'aimerais beaucoup que tu lui racontes comment qu'on est devenus français, nous les juifs.
Ça alors, nous sommes juifs?
Et alors, t'as quelque chose contre?
Ah non, non, pas du tout. Mais je croyais qu'on était d'origine arienne.
Oh, ben mon vieux. Oh, ben ça, dis donc, on rigole pas tous les jours, hein? À rien, nous. À allemand, oui, ma petite fille, hein. À allemand, oui. Et encore du côté de ma mère, hein. Ah, bah, parce que mon père, il était russe, alors tu vois un petit peu. Non, mais bon, à rien, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Attends, grand-mémé, parce qu'elle m'inquiète, là, la ptiote. Dis-moi, Françoise, t'étais quand même au courant qu'on avait changé de nom, non? Mais enfin, qu'est-ce que tu l'embrouilles, la pauvre gosse, là? C'est quand même pas parce qu'on a changé de nom qu'on est devenu français. Ah bon, mais c'est pourquoi, alors? Ben, enfin, c'est à cause de la loi. Mon Dieu, en 1888, là où c'est qu'ils ont identifié tous les étrangers. Oh ben, dites, j'en sais quelque chose, quand même, non? Ben, parce que ça les arrangeait bien, les républicains. Ben, tiens, bien sûr que ça les arrangeait bien, les républicains. Mais parce qu'ils la voulaient, la revanche contre l'Allemagne, bon. Bon, ben, quoi? Ben, ils avaient besoin de chair à canon, un point, c'est tout, hein. Ben oui, mais bon, faut bien appeler un chat, hein. Et puis, j'en sais quelque chose, hein, quand même, hein. Parce que c'est comme ça qu'il est parti, mon Ivan, hein. Bon, à 21 ans, tout juste, hein. Ivan, c'était mon petit frère. Pour leur première guerre mondiale, là. En se battant, en combattant pour la nation, contre des Allemands. Non, mais vous voyez un petit peu. Ivan?
Un extrait de cette pièce, La Marseillaise, etc. On voit tout de suite qu'on est dans des drames à la fois familiaux et en même temps qui dépassent largement les cadres de la famille, l'Alsace-Lorraine, la nation juive, etc., etc. Et justement, etc. C'est l'un des extraits de votre titre, La Marseillaise, etc. C'est un clin d'œil aussi à Rouget de Lisle. C'est une recherche que vous avez faite au niveau de la population marseillaise, Jérémy,
Non, ça non, au niveau de... Là, sur l'extrait qu'on vient d'entendre, non, les recherches qu'on a faites sur les quartiers populaires m'ont servi à, justement, comment j'allais traiter les données historiques qui m'étaient données et comment j'allais entreprendre la complexité des personnages. Mais étant donné qu'on a interrogé beaucoup d'enfants d'immigrés qui étaient d'origine algérienne ou comorienne, je trouvais que c'était intéressant de confronter leurs propres émotions et leurs propres vécus avec ce qu'il y avait de semblable avec des immigrés qu'on a oubliés, qui sont les immigrés de l'Est, qui sont donc juifs en l'occurrence, qui ont fui les pogroms, qui sont devenus français, les Italiens, suite aux lois de 1888-89, pour voir qu'est-ce qui se recoupe justement à travers ces différentes immigrations, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les immigrations, les immigrations coloniales, post-coloniales, et les différentes voilà. Après, là, dans ce qu'on en entend dans le personnage, ce que je trouve intéressant, c'est comment l'univers de la République française, une et indivisible, un de ses côtés peut-être désagréable et néfaste, c'est qu'elle a tendance à gommer comme ça l'histoire personnelle des gens, et que comment se construire sans racines, si on ne sait pas d'où on vient, comment savoir où on va. C'est cette question-là qui peut sembler naïve, mais qui est extrêmement importante. Et on voit comment, en connaissant sa propre histoire, on n'est pas sur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur un repli identitaire qu'on entend en permanence, mais au contraire, on s'ouvre, là, pour le coup, aux questions universelles de l'histoire. Puisque, par exemple, avec ce personnage-là qui pense être d'origine aryenne, puisque très souvent, quand il y a des traumatismes dans les histoires familiales, mais que ça peut être l'histoire de l'Algérie qui est extrêmement traumatique aussi, les douleurs ne se passent pas. Et comme l'histoire ne fait pas ce travail rationnel, et ben il y a des tabous, il y a des choses qui passent pas, et des mensonges, par contre éhontés, qui passent de famille en famille, parce qu'il y a des manques et qu'il faut toujours combler des manques.
Il y a également des mouvances, j'allais dire des mouvances administratives, puisque bon, les Alsaciens dans les années 39-40 se sont retrouvés, ce sont les fameux malgré nous, au sein de la Wehrmacht, l'armée allemande. En 1914, ben c'est pareil, les Alsaciens, et c'est dit dans votre texte, qui se retrouvent à se battre contre des Allemands, alors que ils sont eux aussi d'origine allemande, les Françaises, enfin bref, il y a une espèce de mouvance pas du tout artistique et en même temps très très dangereuse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens dans ces cas-là où on doit renier quelque part ses origines ou alors au contraire tenir compte complètement de ses origines.
Et j'allais dire que paradoxalement, le plus violent, peut-être, c'est pour ceux qui restent. Parce que ceux qui meurent au combat, c'est horrible, hein, parce que c'est bien entendu, il vaut mieux vivre. Mais ceux qui restent et qui n'ont pas, du coup, ils n'ont pas le choix, ils vont au combat. Mais les enfants, les femmes, comment expliquer que son propre mari a combattu son père ? C'est extrêmement compliqué de se construire.
Ou des frères qui se retrouvent là
en face de
l'autre.
De se construire avec ça. Et ça, c'est pour ça qu'on l'oublie avec l'Alsace-Lorraine, mais c'est quelque chose encore dans l'histoire coloniale qu'on a tous vécu, non. Mais pour les gens qui sont musulmans, juifs ou pieds noirs, c'est des histoires dont on est directement issu. Donc je pense que c'était important de le voir par rapport à une histoire qui semble beaucoup plus éloignée, mais où on retrouve les mêmes mécanismes. Et ces mêmes mécanismes-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des populations, des classes populaires et moyennes s'affrontent, au lieu de voir les problèmes que posent certains gouvernements, puisque par exemple, si notre personnage a été naturalisé française, si Françoise est devenue française, enfin, ses arrière-grands-parents, c'est avec la loi de 1888-89 qui a naturalisé ces étrangers. Et elle le dit, pourquoi c'est le droit du sol français, qui est parfois contesté, donc là je ne dis pas qu'il faut se battre pour ou contre, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je ne suis pas dans cette polémique-là, on essaye juste d'expliquer que ce droit du sol, il vient à la base aussi d'un problème de chair à canon, et qu'on avait besoin d'immigrer pour aller combattre les étrangers. Et on oublie complètement ces données-là et on arrive à défendre mordicus des choses dont on ne sait même plus qu'elles se sont abattues contre nous. C'est au-delà des polémiques actuelles, c'est ce processus-là qui nous semble important pour se comprendre soi-même et du coup pouvoir comprendre les autres.
Et les exemples sont nombreux, hein, que ce soit les bataillons d'Afrique ou alors les Annamites qui ont combattu dans la Première Guerre mondiale, etc., etc. Je vous propose, Jérémy, d'écouter un deuxième extrait. On va plonger plus auprès de la psychologie de vos personnages. Et on va entendre Stan et Françoise. C'est un extrait qui va nous permettre de cerner un peu mieux vos personnages.
Ils étaient de là-bas, mes aïeux. Regarde, Françoise. Ils étaient de là-bas, de Marseille. C'est ça. Et ils habitaient là, regarde. Rue de la République. Oh là là, si tu avais vu ça. C'était une belle et grande rue, là. Avec des beaux immeubles, tu sais. Mais ils ont pas sifflé, eux. Non, c'est pas vrai. Ils ont pas sifflé. Ils ont eu honte de leur frère italien qui sifflait un pays, qui leur donnait du travail. Oh là là, mon piquet. Mais tu m'inquiètes, là. Viens, regarde, Françoise. Regarde, les bambino. Ah, que bello. Oh là là, mon piquet, mais y a rien du tout, là. Hein, absolument rien. Mais si, regarde, c'est Rinaldo. Che piccolo. Rinaldo, tu sais, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Oh, mais comme il est beau. Oh, Rinaldo, tu vois, Françoise, eh ben c'est le premier Grimaldi, tu m'entends? Le premier à être entré là. Mais comme elle est belle. Mamma mia, liberté, égalité, fraternité. Oh là là, mon biquet, mais pas du tout. Ça, c'est la porte d'entrée avec tes verrous tout neufs. Non, Françoise, non, c'est l'école, ça. C'est l'école toute neuve, tu comprends? C'est l'école où le premier Grimaldi, Rinaldo, il est entré. Et c'est là qu'il a appris à devenir un Français, tu comprends? À devenir un Français, remercier cette nation qui avait arraché sa famille à la misère de leur terre. Oh! Oh, Framboise.
Un beau plaidoyer pour l'école aussi, là, Jérémy. L'école de la République.
Oui, sauf que dans la pièce, en fait, il regarde ces trois verrous tout neufs.
Donc oui,
c'est
en aussi, plus.
C'est toute la dualité du gouvernement français. C'est ce qui permet l'émancipation, mais ce qui inclut aussi la perte de sa propre identité. Ce qui s'est passé notamment là pour le personnage qu'on entend, puisque Stan Grimaldi, dans la pièce, donc là, vous avez entendu que Stan et François sont joués par la même comédienne, puisque dans la pièce, on a trois comédiens qui jouent chacun plusieurs personnages. Et là, Stan Grimaldi, qui habite en banlieue parisienne, découvre que ses ancêtres étaient italiens, que ses ancêtres vivaient à Marseille, rue de la République. Et lors du scandale des vêpres marseillaises dont je parlais précédemment, où justement la Marseillaise a été sifflée par une poignée d'Italiens, et où les journalistes ont dit que c'était le symptôme génération d'enfants d'immigrés qui formaient une nation dans la nation, on voit que Stan Grimaldi, lui, en fait, contrairement à ce que je pouvais penser moi, par exemple, de manière extérieure à la pièce, il condamne ces sifflets-là, et lui sait que ses ancêtres, bon là c'est de la science-fiction, hein, mais il sait que ses ancêtres n'ont pas sifflé, et qu'ils ont eu honte pour leurs frères italiens qui ont sifflé la Marseillaise. Ça par exemple, c'est quelque chose qu'on a trouvé quand on a interrogé justement les enfants, les Marseillais algériens, les Marseillais comoriens, par rapport au sifflet des matchs France-Algérie-France-Tunisie. Où nous, on arrivait simplement en disant « c'est pas normal que certains journalistes vous aient tous stigmatisés ». Et la première, quelque chose qui est revenu malgré les générations, malgré les sexes, malgré les âges, malgré les classes sociales qu'on a interrogées, sachant que c'était que des gens des quartiers populaires, hein, ils nous ont dit « oui, mais moi, ces sifflets, ils m'ont insupporté. C'est un scandale. On ne peut pas comme ça siffler la France. Ça, la France, c'est un pays qui nous accueille, c'est un pays... » Et ça, par contre, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Ils étaient d'accord pour condamner les médias qu'ils mettaient tous dans le même sac. Ils condamnaient ces médias-là, mais par contre, ils ne supportaient pas qu'une poignée d'Algériens ou d'enfants des quartiers populaires puissent siffler ou se moquer des symboles nationaux. Et c'est cette dualité-là que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement riche, que nous a apporté l'étude ethnographique aujourd'hui, et qui nous a permis de revoir, d'imaginer ce qu'avait pu penser sur le coup des enfants d'immigrés italiens en 1881.
On va continuer le zoom, si vous voulez bien, sur Marseille. On a parlé d'Allemagne, on a parlé de Tunisie, on a parlé d'Italie, puis on a parlé de la France, bien sûr, et là on va vraiment parler de Marseille, et puis vous allez voir qu'il y a des résonances très actuelles sur cet extrait que vous pouvez peut-être nous présenter, Jérémy.
Voilà, c'est juste que l'extrait précédent, donc c'était les ancêtres qui habitaient rue de la République en 1881, et là on va retrouver un des personnages qui habite rue de la République aujourd'hui.
Allez-vous-en, Cono. Allez-vous-en. Laissez-nous. Allez-vous-en. C'est sans plus rien ni personne ici. Ah ça oui, les façades, elles sont bien rénovées. Immaculées. On ne voit même plus une goutte du mal qu'ils nous ont fait. La ville, elle nous a vendus à des multinationales, à des ricains. Et ceux qui n'ont pas voulu partir, elle leur a envoyé les gros bras de faux maçons aux ordres de vrais racailles, comme tout défoncé. Le carrelage des mamies avec des fuites imaginaires. Les tuyaux de canalisation pour que les pauvres de deuxième, troisième, quatrième génération apprennent à vivre dans leur déjection. C'est comme ça qu'on l'a préparé la capitale culturelle à Marseille. La métropole, elle, a avancé sous l'oubli des bourgeois. Ils vous diront que c'est pas vrai. Ils vous diront que c'est pas vrai.
La rue de la République à Marseille, c'est de l'autre côté de la Canebière, et de l'autre côté de la Canebière, il y a la rue d'Aubagne. Comment ne pas penser à ce drame qui nous a frappé, nous, Français, de la rue d'Aubagne, cette ville en déshérence, Marseille, que vous connaissez bien, Jérémy Béchon, forcément. Mais ce texte n'a pas été écrit par rapport à la rue d'Aubagne, et pourtant, il y a des résonances.
Oui, bien sûr, parce que ça fait, on est quelques-uns, quelques artistes, quelques intellectuels. Je dis quelques parce que maintenant, il y a plus de gens qui se portent en faux contre la mairie de Marseille à cet endroit-là, mais je peux vous assurer que ceux qui le disent comme nous depuis quelques années, on a été aux premières loges, parce que ça se fait pas de critiquer la municipalité qui peut vous financer, tout simplement. Ça peut devenir assez complexe. Et oui, nous, on critique que ce soit sur la rue d'Aubagne, qui est l'événement aujourd'hui traumatique, avec ses morts, avec ses immeubles effondrés, mais qui est tout simplement dans le processus de ce qu'ils appellent la rénovation urbaine, ce que nous avons toujours dénoncé comme nous comme étant une destruction urbaine. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est pas seulement des pierres. Et en plus, quand on voit à quel point on nie les gens qui habitent dans ces pierres, ben même ces pierres s'écroulent au bout d'un moment. Et la rue de la République a été le processus de la fin de la capitale culturelle européenne avec Euro-Méditerranée. Et les gens disent « Ah mais non, c'est pas pareil ». Si, c'est comment la culture comme marchandisation arrive à ce processus d'expropriation des centres-villes, et c'est comment expulser les classes populaires à la rue de la République à l'époque. Effectivement, de faux maçons sont venus casser les canalisations pour que les gens vivent dans leur déjection et soient obligés de partir. C'est pas des choses qui ont été inventées, il y a des témoignages, il y a des études qui ont été faites, et on voit comment les multinationales et comment la fausse opposition du public et du privé n'opère plus, mais comment en fait ce sont des parts de marché qui se font et qui achètent les centres-villes pour en expulser leur classe populaire et leur classe moyenne. Ce qui se passe aujourd'hui à la rue d'Aubagne, ce qui se passe aujourd'hui à la Plaine, c'est ce même processus. La Soleam qui est à la Plaine, c'était avant Marseille Aménagement. C'est eux qui ont complètement refait dans les années 90 le centre-ville de Marseille. C'est eux qui ont vidé le quartier de Belzunce. Aujourd'hui, c'est eux, ils ont changé de nom. C'est plus Marseille Aménagement, encore une fois, c'est Soleam. Ils ont muré la plaine. 390 000 euros pour mettre un mur de béton autour de la plaine. Si on avait investi ça, ne serait-ce que dans les murs de rénovation, est-ce qu'on en serait là? Est-ce qu'il y aurait ces morts, ces 8 morts? Et la répression policière qui est par-dessus. Enfin voilà, on le sait, une dame de 80 ans qui est morte d'une grenade, et dont l'étude dit que cette grenade-là, elle a pas été jeté au hasard. Des gens de la BAC à Marseille qui matraquent pas que les manifestants, parce que s'ils matraquaient que les manifestants, à la limite, je comprendrais. Enfin, là, c'est plus l'artiste qui parle, c'est le militant. Public, là. Quand je vais à une manifestation, oui, si j'ai une réclamation et que je vais jusque devant des CRS, on se doute bien que sans CRS devant 15 000 personnes, au bout d'un moment, il peut y avoir un coup de stress. Par contre, des gens qui viennent et qui matraquent des passants, là, par contre, la règle du jeu, elle est plus respectée. Donc, ce processus-là de vider, de vouloir que des places économiques fortes, on voit comment c'est contre-productif. Parce que le marché de la plaine était un marché qui générait de l'économie. Alors de l'économie qui est pour les citoyens, pas de l'économie qui est pour les multinationales ou pour certains élus.
Et en même temps, une animation sociale sur le territoire.
Et une mixité bien sociale. Sûr. Et les gens, il y avait sans cesse un va-et-vient entre la plaine et le quartier de Noailles.
Alors on arrive à la fin de notre entretien, Jérémy. Avant de donner quelques éléments pratiques pour le spectacle que vous donnez avec vos amis comédiens vendredi soir à Manosque.
Donc la Marseillaise, etc. Parce que c'est une comédie, contrairement à ce que je dis, c'est... qui est assez triste, la pièce est sur le mode de l'humour et de la poésie et permet de voir toutes ces questions-là de manière beaucoup plus distanciée et de pouvoir partager ces questions-là dans un moment de spectacle et de joie.
Alors juste une remarque avant de dire, de donner les éléments pratiques, il y a un bâtiment magnifique, un super building qui a été inauguré il y a à peu près un mois et demi à Manosque, à Marseille pardon, et qui s'appelle la Marseillaise, que l'on doit à l'un des plus grands architectes au monde, Jean Nouvel, à grand renfort de communication, et quelques jours après, on a des effondrements dramatiques à la rue d'Aubagne. Donc la Marseillaise, c'est aussi quelque chose de très paradoxal à Marseille, et c'est bien de le rappeler, parce que cet immeuble est aussi un symbole quelque part de là où on met l'argent. Vous parliez de la plaine, plusieurs millions d'euros vont être nécessaires pour aménager la place de la plaine à Marseille.
Et donc, sans concertation.
Et c'est sans ça concertation. Qui est bien, quand même. Donc c'est vrai que c'est très grave. Revenons à votre spectacle, c'est ce vendredi à 20h à Manosque.
Au théâtre Jean Le Bleu à Manosque, c'est les réservations sur manifesterien@gmail.com, où vous pouvez vous présenter directement, parce que c'est dans la grande salle du théâtre Jean Le Bleu. le vendredi 7 décembre à 20h. Voilà. La Marseillaise, etc., par le collectif Manifeste Rien. On joue souvent dans le 04. On avait fait La Domination Masculine de Bourdieu. On avait fait Chacal. Et on est très content de revenir avec ce spectacle. Et par rapport à ce que vous disiez sur La Marseillaise, etc., moi, ce qui me semble important, c'est de pouvoir se réapproprier les symboles nationaux. Par exemple, on a eu, donc, quand on avait joué à Marseille au mémorial de la Marseillaise, j'ai eu des lettres de menace de l'extrême droite française et de groupuscules, groupuscules d'extrême droite qui caricaturaient nos comédiens, parce qu'on a une comédienne qui est noire comme un singe, enfin, vous voyez, un autre qui est d'origine, enfin, sur, voilà. Pour eux, on est, avec ce genre de caricature là, et du coup moi je l'avais pas dit aux comédiens avant de monter sur scène, parce que j'avais vraiment peur pour l'équipe, mais on est monté, on a joué, et à partir de ce moment là ce drapeau français duquel j'étais pas très fier, devenant d'un côté plus anarcho-militant ou quoi, plus jeune, je me suis jamais posé la question est-ce que ce drapeau me représentait ou pas. Du coup c'est très intéressant parce qu'il y a une prise comme ça de pouvoir sur ce drapeau, sur ce symbole. On ne vous laissera pas ce territoire, on ne vous laissera pas ces symboles, on ne vous laissera pas cette histoire commune. Allez à nous et on est capable de la raconter avec notre diversité.
La Marseillaise, etc., c'est à Manosque le 7 décembre. Vous allez d'ailleurs présenter ce spectacle devant des scolaires, juste avant la représentation publique à 20h. Je ne vais pas vous dire au revoir en partant, simplement allons enfants de la patrie, ça vous va ?
Le jour de gloire viendra et reviendra là avec des gilets jaunes, je pense, d'ici peu.
Merci Jérémy, à bientôt.